Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. Oui, malgré la voix un peu bizarre, c'est bien Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Prague, en République tchèque, et aujourd'hui je suis tout seul. Désolé. Et ça va être d'autant plus... douloureux pour vos oreilles, qu'effectivement, comme je vous le disais, j'ai la voix qui part un petit peu en sucette. La faute à un déménagement un petit peu chaotique dans un climat belge un petit peu difficile, qui a emporté ma voix, heureusement. À côté de ça, tout va bien, mais bon, voilà, la gorge n'a pas trop apprécié les changements de température et les coups de vent un petit peu frais. Ça ne va pas m'empêcher d'enregistrer cet épisode 13 contre vents et marées, contre la maladie, surtout un petit mal de gorge. Mais voilà, on va le faire quand même. The show must go on, comme disait l'artiste. Donc, aujourd'hui, pas de plume, donc pas d'édito, mais quelques questions des auditeurs. J'ai notamment reçu deux questions, je crois, une sur le blog et une par mail, qu'on va d'abord traiter, et ensuite on passera à l'actualité. On va essayer de rester ce coup-ci dans une durée un petit peu plus raisonnable que la dernière fois. Le dernier épisode faisait 1h30 et j'ai eu quelques plaintes par rapport à ça, que je comprends, parce que c'est vrai qu'on avait volontairement décidé au départ de faire des podcasts de 45 minutes à 1h pour que ça tienne en gros dans un trajet maison-travail, et même un trajet maison-travail belge, ça dépasse rarement l'heure et demie. Donc voilà. On va essayer de rester dans une durée un peu plus raisonnable. Donc j'aurai un petit peu moins de sujets de l'actualité pour compenser le fait qu'on a ces deux questions des auditeurs. Et la première question nous vient de Soton Knut, désolé si je prononce mal le nom, qui nous dit « J'ai découvert Proof of Cast sur iTunes récemment, vraiment très informatif et qualitatif, merci. Ploum, ton édito dans l'épisode 12 m'a fait bien rire, ne serais-tu pas la réincarnation de Pierre Desproges ? Je suis sûr qu'il appréciera le commentaire. Sinon, sur le fond, j'ai lu l'article suivant, donc le lien évidemment sera dans le blog post de l'épisode, sur l'application potentielle de la décentralisation à la gestion des commons, et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Enfin, pour finir, je ne résiste pas à partager avec vous ce site sur les loulous de Poméranie japonais tondus. Je sais pas si je vais vous mettre le lien, si quand même, parce que c'était, voilà, pour ceux qui avaient suivi le dernier épisode jusqu'au bout, malgré sa longueur, c'était la petite vanne. Il fallait nous envoyer des photos de Poméraniens et il a réussi. Donc, merci à toi, Soton Knut, pour ta fidélité déjà. Alors, parlons un petit peu des commons. Les commons, c'est quoi ? C'est un grand terme, mais vous allez voir que ça a un sens tout à fait concret. Quand on parle de commons, on parle en fait des ressources naturelles en libre accès, qu'on ne peut que très difficilement diviser et attribuer, mais qui sont constitués quand même de biens, ce qu'on appelle des biens rivaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'un acteur acquiert un de ses biens, ben, il est plus disponible pour les autres. C'est une classification standard. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on entend par là ? Ben, pensez par exemple aux poissons dans l'océan. C'est une ressource à laquelle tout le monde a plus ou moins accès, mais on n'a pas le contrôle sur où les poissons vont exactement, sur quels poissons sont où, etc. Et donc c'est assez difficile de dire toi t'as ces poissons et toi t'as les autres. Pareil pour la qualité de l'air, par exemple, hein, pour la capacité de l'air à absorber de la pollution, pour la biodiversité, pour la bande passante internet, pour un logiciel open source, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a plein comme ça de ressources qui rentrent dans cette catégorisation des commons. C'est une catégorisation d'ailleurs qui est issue de sciences sociales, de l'économie, etc. etc. Pour info, si on y pense un petit peu, si on y réfléchit, la blockchain, c'est aussi fait partie de ces ressources communes dans lesquelles on tape un petit peu tous allègrement et qu'il faut pouvoir utiliser intelligemment sans pour autant pouvoir la diviser strictement. Hein, c'est un peu le en tout cas c'est particulièrement le cas par exemple d'Ethereum avec son système de gaz qui sert justement à réguler l'usage de l'espace de stockage et de la puissance de calcul de toutes les machines du réseau. Bref, tout ça pour dire, le problème avec ces ressources, c'est que souvent, donc avec tous les commons, c'est que souvent elles sont surutilisées par les acteurs parce que les acteurs ne se préoccupent, donc les acteurs du système ne se préoccupent pas de la soutenabilité, de la sustainability en anglais, de leur utilisation. Ils utilisent chacun la ressource pour leurs intérêts propres et ils se fichent un peu de est-ce que ça va faire mourir la ressource ou pas. Et c'est ce qu'on a appelé depuis les années 60, je crois, les années 70, c'est ce qui a été appelé la tragédie des communs, the tragedy of commons. Il y a plein de papiers intéressants là-dessus, je vous invite à regarder ça. Et typiquement, pour éviter ça, il y a deux solutions qu'on a utilisées au cours des dernières décennies. C'était soit de donner à une institution centralisée le pouvoir de réguler l'utilisation de la ressource, par exemple à un État-nation, à un gouvernement quelconque, etc. Soit de privatiser la ressource pour qu'elle ne soit plus un bien commun et qu'on puisse finalement gérer le truc avec un marché. Autrement dit, on transforme le common en une sorte de truc privé qu'on redivise. Et qu'on utilise, qu'on régule grâce à des marchés. C'est typiquement ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, à partir du moment où les champs, notamment les prés qui permettaient de faire paître le bétail, pendant longtemps ça a été une ressource commune dans laquelle les paysans utilisaient un petit peu à leur bon vouloir, jusqu'au jour où on a décidé de mettre des clôtures et de diviser la terre strictement, et puis ensuite de revendre les terrains sur les marchés au plus offrant. Et donc voilà, ça c'était une solution pour essayer de d'éviter que la ressource commune meure. Voilà. Maintenant, depuis les travaux d'une certaine économiste qui est citée dans l'article que nous pointe d'ailleurs Sutton, que je vous laisserai retrouver, hein, Oriana Koldum, je vais pas me souvenir de son nom, je vais vous dire ça tout de suite, puisque je l'ai sous les yeux l'article, voilà. Donc, suite aux travaux de... Elinor Ostrom, voilà, c'est pour ça que j'arrivais pas à me souvenir de son nom, c'est qu'il est un petit peu tarabiscoté. Donc, Elinor Ostrom, elle nous dit que, en fait, il y a une troisième solution, plutôt entre la privatisation / marketisation d'un côté, et puis la politisation / étatisation de l'autre. Il y a une solution qui est de finalement gérer collectivement la ressource sur base d'un ensemble de règles. Et elle a identifié quelles étaient les règles minimum pour qu'un tel système fonctionne. Donc en fait, il existerait une troisième voie, mais dans l'étude que elle a fait, dans son analyse à elle, c'était limité à des systèmes relativement petits, avec des petites communautés, mais c'était très compliqué d'appliquer les mêmes règles à de grandes échelles, donc sur des grands systèmes économiques par exemple. Mais si on y réfléchit bien, c'est justement la spécialité des blockchains. En gros, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre en place une espèce de gouvernance collective, ce qu'on arrive encore une fois très bien à faire sur des petites communautés, qui est plus compliqué à des grandes échelles. Mais là encore, les blockchains ont été conçus pour ça et ont été une parfaite démonstration, enfin une très bonne démonstration de ce qu'on pouvait faire dans ce sens-là. En gros, les blockchains, elles créent une sorte de marché de gouvernance dans laquelle les acteurs individuels sont récompensés pour mettre en œuvre les règles d'utilisation de la ressource. Donc typiquement, les mineurs dans les blockchains sont récompensés pour leur application des règles qui sont acceptées par la communauté dans son ensemble et qui régulent l'utilisation de la ressource, c'est-à-dire qui a le droit d'ajouter des transactions, dans quel ordre, etc. etc. Donc, l'idée... qui est défendu dans l'article, c'est que de la même manière que la bourse a permis aux sociétés, donc aux entreprises, c'est-à-dire à des ressources privées finalement, de monter à l'échelle, le concept même de la blockchain permettrait à terme aux ressources communes de monter elles aussi à l'échelle. Ce qui pourrait finalement créer le même genre d'explosion d'abondance et de prospérité que les marchés financiers, la bourse, etc. ont créé pour les biens privés. Je dois avouer que l'article, j'ai trouvé super intéressant, mais très bien expliqué, parce que j'avais très souvent entendu parler de cette notion de commons, notamment dans le contexte de la blockchain, mais j'avais pas beaucoup plus creusé que ça. Et là, je vois tout de suite beaucoup mieux le lien, et ça rajoute pour moi dans ma réflexion à l'intérêt de la blockchain et à son impact sociétal. Donc je vous invite vraiment à lire cet article puisqu'il est vraiment bien foutu. Et je vous invite aussi à aller voir les travaux d'un autre gars. Donc justement, j'avais entendu entendu parler de blockchain et de commons dans un même talk, qui s'appelle Michel Bouwens, qui est belge à la base, qui est chercheur et qui donne beaucoup de conférences un petit peu partout. Et il y a un talk assez intéressant de lui sur Vimeo, qui s'appelle Progressive Post-Capitalist Uses of the Blockchain, et que je vous invite à regarder parce que voilà, il présente un petit peu l'histoire de tout ça. Lui travaille pour, enfin, je crois qu'il a fondé même la P2P Foundation, qui fait beaucoup de recherches et de travaux autour de tout ça. Et lui, une des raisons qui a fait que j'ai pas creusé plus que ça, c'est que la façon dont il met les deux en corrélation, donc la blockchain d'un côté et les commons de l'autre, c'est de dire que finalement la blockchain c'est pas si important que ça et que la solution à la tragédie des commons on l'avait trouvée déjà bien avant la blockchain, donc finalement c'est pas si important. Et si on regarde un petit peu le présentation, c'est un peu plus nuancé que ça, c'est-à-dire que ce qu'il dit c'est qu'effectivement les choses ont commencé à bouger avant l'invention de la blockchain grâce à l'invention d'Internet. Donc Internet a déjà déclenché une réaction qui permettrait à terme d'envisager des solutions à cette tragédie des commons. Mais moi, je suis pas en contradiction avec ça. Je pense qu'il a effectivement raison. La blockchain n'a pas créé de solution. Par contre, je suis de plus en plus convaincu que la blockchain a permis de catalyser ce mouvement, de l'accélérer en offrant de nouvelles solutions plus automatiques, plus formelles, etc. Et de la même façon que la presse a imprimé, vous savez, le bon gros truc en bois avec des gaillards qui tournaient une vis, eh ben c'est pas ce avec quoi on a fini par imprimer tous les journaux qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'on a inventé la machine à vapeur et les presses industrielles qu'on a fini par développer ce genre de choses. Donc je pense qu'on est à peu près dans le même état d'esprit et c'est intéressant de faire ce genre de parallèle. Maintenant, là où j'ai un petit peu plus de problèmes dans sa vision des choses, c'est qu'il mélange un petit peu tout. Il part du principe que toutes les blockchains partagent un petit peu le même socle de valeurs et de croyances. Or, on le sait, je le répète souvent dans ce podcast, à part la structure de données, il n'y a rien de commun entre les valeurs d'une blockchain ouverte et celle d'une blockchain permissionnée, par exemple. Alors, c'est un petit peu le parallèle qu'il fait. Il parle des banques qui financent des workshops de blockchain. Mais bon, bien souvent, ça n'a rien à voir en termes de valeurs. Ça n'a absolument rien à voir en termes de philosophie. Et même à l'intérieur des blockchains ouvertes, les philosophies, elles ont d'énormes différences entre Bitcoin et Ethereum, par exemple. Alors, à sa décharge, je rappelle quand même qu'il faut toujours regarder les dates. J'ai regardé ça après coup. La présentation date de 2016. Donc, Ethereum venait seulement d'apparaître. Il n'y avait pas encore eu tous les développements qu'on a connus très rapides ces deux dernières années. Donc, voilà. Je pense que... Enfin, j'ose espérer en tout cas que son opinion a évolué et qu'il s'est rendu compte que les choses étaient un petit peu plus nuancées que ça. En tout cas, voilà, moi, c'est l'éclairage que je mets un petit peu dessus. Donc, si je résume tout ça, puisque finalement, Sotan Knut me demandait mon avis, nous demandait notre avis sur la question, et que je suis là tout seul aujourd'hui, je vais vous donner mon avis. À mon avis, effectivement, on est confronté aujourd'hui à une explosion de tragédies des communs à l'échelle globale. Que ce soit en termes environnementaux, en termes de répartition des ressources, de répartition des richesses, de migration, etc. On a plein de communs qui sont en train d'exploser partout et qui sont en train de s'épuiser partout parce que ceux qui les utilisent le plus, ben les utilisent indépendamment et sans aucune considération pour la soutenabilité de leur utilisation. Et par rapport à ça, on peut pas trop compter sur la première solution, c'est-à-dire la gestion par une espèce d'institution super globale qui permettrait de réglementer tout ça, de réguler tout ça, justement parce qu'on n'a pas ces institutions globales suffisamment puissantes. Les États-nations sont bloqués à l'échelle nationale et donc ils sont impuissants à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle où ces commons sont utilisés. D'autre part, on peut pas aller non plus tellement dans l'autre sens, ou plutôt on a essayé d'aller dans l'autre sens en marketisant un petit peu tout ça. Et de fait, les marchés, c'est un petit peu le seul truc qui est un petit peu global et qui pourrait éventuellement gérer ça. Malheureusement, les marchés globaux, ils ont une vision un peu trop limitée de la valeur parce que bien souvent, ils cherchent à cacher la nature commune des ressources derrière des règles de marché un peu trop simplistes. Ça externalise dans tous les sens. Ouais, la pollution, on s'en fout, ça n'a pas de valeur. Il y a plein de choses comme ça qui sont mises de côté. Et surtout, ils sont complètement inefficaces et opaques. Et ça, c'est un gros problème avec ces systèmes. Donc, finalement, désolé pour le petit bruit de fond, Internet a ouvert effectivement la voie à d'autres types de création de valeur et surtout a fait émerger une génération de citoyens du monde. Et dans ce sens-là, effectivement, ça a été un activateur phénoménal. Mais au final, c'est ça qui a permis à des concepts comme celui de la blockchain d'émerger. Et notamment pour porter ces notions de gouvernance décentralisée des communs vers d'autres niveaux. Et c'est, je pense que ça, c'est un peu dans ce sens-là que cet article est intéressant et que cette mise en relation de la tragédie des commons et de la blockchain peut être intéressante. La blockchain pourrait nous permettre de sortir de cette dichotomie marché-régulation pour proposer une troisième voie. Alors après, par contre, pour aller vers quoi? Ben, ça, c'est un peu à nous de le décider, à nous au sens large, à tous ceux qui sont impliqués là-dedans et qui donnent forme à ces différents trucs. C'est vrai que toutes ces technologies sont, comme le disait Bowens dans sa présentation, sont sensibles aux valeurs, c'est-à-dire que c'est les valeurs que nous on y met qui donnent forme à ce qu'elles deviendront et à ce qu'elles nous permettront de faire. Et donc de ce point de vue, ben n'hésitez pas encore une fois à écouter ce podcast et à lire beaucoup d'informations autour pour vous renseigner sur les valeurs, sur la philosophie qu'il y a derrière les différentes blockchains et donc pour vous y impliquer. C'est comme ça que vous donnerez sens à tout ce qui se fait. Et je vais terminer. J'espère que ça a répondu à la question de Sauton Knut sur la tragédie des commons et l'application de la blockchain à tout ce petit monde. Et je vais passer à la question suivante, la question de William Demeux, qui nous dit « Concernant le Bitcoin et le problème de centralisation causé par les sites d'échange, il y a aussi le problème de la centralisation des sites de minage. Une solution progresse-t-elle pour régler ce problème ? Étant donné les millions de PC qui tournent en même temps chez les particuliers, ne pourrait-on pas concevoir un système ASIC-resistant, mais aussi multicard graphique-resistant, pour faire participer un maximum de gens du commun aux validations de transactions ?» Ceci étant demandé, j'aime bien que vous vous égarez, cela égaye le podcast évidemment, ça les rend assez longs aussi, on sait. Et enfin, Loulou de Poméranie, juste pour dire que j'ai écouté jusqu'au bout, décidément, on a plein de gens qui ont écouté jusqu'au bout, c'est génial. Alors, en gros, ce qui nous dit William Demeux, c'est finalement le Bitcoin, il est centralisé de plusieurs façons, et notamment dans les acteurs qui ont la possibilité, la rentabilité, l'opportunité de participer au minage. Et il a tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, William, c'est effectivement un souci. Maintenant, le problème, c'est que passer d'un algorithme de consensus non ASIC resistant comme effectivement le proof of work de Bitcoin à un algorithme ASIC resistant, et ben forcément ça va créer, devine quoi, de la résistance. C'est-à-dire que dans tous les systèmes où vous avez un grand nombre d'acteurs qui maintenant ont investi énormément d'argent, énormément de moyens dans ces ASICs, donc dans ces matériels spécialisés, ils vont résister de toute leur force. De toute façon, un tel changement nécessitera un hard fork, donc une modification des règles de validation des blocs, et à ce moment-là, ben les mineurs qui ne sont pas d'accord ont toujours la possibilité de forquer, de dire non, moi je refuse ce changement et je vais faire autre chose. Et on a déjà assisté au désastre que pouvait provoquer ce genre de fork ces dernières années avec le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold et j'en passe. Qui n'était pas lié, je crois, à la ASIC resistant, hein, il me semble, mais voilà. En tout cas, c'est ce genre de choses qui pourrait se profiler dans le cas où on prendrait cette décision et vous imaginez bien que ce serait une décision particulièrement contentieuse. Donc, d'un autre côté, j'ai trouvé un article assez intéressant sur l'ASIC resistant qui allait ouvrir un petit peu le débat sur la réalité de la centralisation causée par les ASICs. La croyance traditionnelle, c'est de dire que finalement les GPU, donc les cartes graphiques, sont plus accessibles que les ASICs et que donc ça permet à plus de gens de participer au minage. Or, si on regarde un petit peu, que ce soit en termes de prix, hein, puisque les ASICs ont vraiment baissé de prix ces dernières années, ou en termes de facilité d'utilisation, si on compare l'interface utilisateur qui permet de gérer un ASIC versus celle qui permet de gérer un pool de cartes graphiques, par exemple, les ASICs ont tendance à être beaucoup plus simples à utiliser, donc beaucoup plus abordables, finalement. pour peu qu'on y mette évidemment un petit investissement. Mais encore une fois, quand vous investissez dans une carte graphique, il faut penser à investir aussi dans la machine qui va autour, dans la carte mère, les barres de mémoire, etc., etc. Donc c'est pas, il faut prendre le coût dans son ensemble. Donc ça, c'est un premier accro dans la théorie qui dit que les GPU sont forcément plus décentralisés que les ASICs. Autre argument que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une certaine manière, les gros mineurs seront de toute façon toujours plus efficaces que les petits, qu'ils aient des ASICs ou beaucoup de GPU. Donc c'est pas parce qu'on va passer sur du GPU que tout d'un coup ça va fermer la porte à des acteurs qui mettent beaucoup d'investissements et qui donc vont prendre l'avantage sur le petit étudiant dans son coin qui mine sur une seule carte graphique sur l'électricité de sa chambre d'étudiant qui de toute façon est payée dans son forfait. Ça c'est des choses qui seront de toute façon toujours le cas parce que eux vont chercher à suroptimiser, à aller là où l'énergie coûte le moins cher, etc. et acheter le matériel évidemment avec des prix de gros qui seront plus intéressants que pour les petits individus. Donc ça restera toujours. Alors il parlait aussi d'une solution pour éviter les multiplications de cartes graphiques, mais ça techniquement je vois pas comment on peut faire puisque n'importe qui peut faire que chaque carte graphique soit mine sur un compte séparé et puis après tout va dans le même compte. Enfin c'est impossible à détecter pour la blockchain. Et le dernier argument que je trouve intéressant aussi, c'est que on peut même penser que les ASICs, d'une certaine manière, ont permis de protéger le réseau contre certaines attaques, et notamment contre les attaques à 51%, parce que les ASICs, finalement, ne peuvent miner que sur une seule blockchain. Donc, ils ont encore plus intérêt à ce que la seule blockchain sur laquelle ils peuvent miner et donc faire des bénéfices, garde toute la confiance du grand public et continue à augmenter en valeur. Donc ils ont encore moins intérêt à menacer la confiance dans leur blockchain que les GPU qui finalement, si une blockchain perd un petit peu en popularité et en valeur, ils peuvent réorienter leur puissance de calcul vers d'autres blockchains qui se minent aussi en GPU. Donc tout ça, pardon, pour nuancer un petit peu le propos selon lequel les ASICs sont fondamentalement plus mauvais que les GPU en termes de décentralisation. Par contre, il y a un vrai danger, évidemment, qui réside dans le faible nombre de producteurs d'ASICs, puisqu'aujourd'hui, c'est essentiellement Bitmain avec un ou deux concurrents, mais qui sont un petit peu à la traîne, et qui, pour le coup, introduit une vraie centralisation par rapport aux GPU, puisque les GPU, il y a un petit peu plus de fabricants, et surtout, ils ne fabriquent pas que pour miner, puisqu'ils fabriquent aussi pour les jeux, pour les calculs d'IA, etc. Donc de fait, ça, c'est un vrai problème. Mais voilà, sur Bitcoin en tout cas c'est pas un problème majeur pour le moment. Le principal problème à l'heure actuelle c'est la scalabilité, et la solution sur laquelle tout le monde zieute un peu c'est le Lightning Network. Il y a énormément de recherches qui est à ce niveau là donc sur les State Channels je vous invite de nouveau à écouter les épisodes précédents ou à vous renseigner là dessus il y a beaucoup de recherches très intéressantes sur le sujet. Parlons juste d'Ethereum rapidement, on en a parlé aussi dans les épisodes précédents. Les mineurs sont un petit peu plus inquiets parce que les premiers ASICs Ethereum commencent à arriver. Bitmain a sorti son Antminer i3 il y a quelques mois de ça, et ça commence à inquiéter certains mineurs puisque pour l'instant Ethereum était uniquement miné sur GPU, et puis maintenant il y a les ASICs qui commencent à arriver. Et donc les mineurs poussent au changement de l'algo de consensus dans un premier temps pour essayer de mettre les ASICs de côté, et sachant que de toute façon à terme la solution ce sera le proof of stake pour lequel il n'y aura plus besoin de matériel du tout, que ce soit ASICs ni ASICs ni GPU, et donc ça mettra tout le monde d'accord, mais c'est encore pas près d'arriver. Vous allez voir d'ailleurs d'après les news dont je vais vous parler plus tard. Une autre monnaie, par exemple dans Monero, ils ont décidé de changer régulièrement leur algo de consensus pour rester ASIC résistant. Donc voilà, chaque blockchain a un petit peu sa tradition, sa façon de gérer le problème. Mais c'est important de considérer que c'est pas que le débat est encore ouvert et que c'est pas évident d'identifier quelle solution est forcément la meilleure. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question, William. N'hésitez pas à faire comme William et Sauton, à nous envoyer vos questions et vos remarques sur soit sur le blog proofofcast.com, soit en commentaire sur Twitter ou Facebook, où à chaque fois on a des posts, donc sur proofofcast sur Twitter, la chaîne proofofcast sur Facebook. N'hésitez pas à rajouter vos commentaires ici et on est très heureux à chaque fois d'y répondre. Alors soit on y répond directement, soit on répond dans un épisode comme c'était le cas ici, quand les sujets sont particulièrement intéressants et de valeur ajoutée pour la communauté. Voilà qui conclut les questions des auditeurs. Passons maintenant aux actualités. Alors comme je le disais, on va essayer de faire un petit peu moins d'actualité que d'habitude pour rester dans les clous en termes de durée, et on va commencer par le HTC Exodus. Alors là, on en avait parlé aussi dans un ancien épisode, il y a quelques mois de ça. HTC Exodus, c'est quoi ? C'est le nouveau téléphone de HTC qui sera orienté vers la blockchain, qui proposera un certain nombre de fonctionnalités spécifiques au support de la blockchain. Alors, après avoir été annoncé, je crois, en avril ou en mai de cette année, il a finalement été présenté officiellement le 22 octobre, donc il y a quelques jours de ça. Et il y a quelques faits intéressants par rapport à ça. Alors d'abord, il est déjà possible de le précommander, mais uniquement en crypto-monnaie, et en l'occurrence, soit en Bitcoin, soit en Ether. Il vous en coûtera 0,15 Bitcoin ou 4,78 Ether. Ça représente à la valeur d'aujourd'hui, là, au moment où on enregistre cet épisode, c'est-à-dire le 26 octobre, ça représente à peu près 850 €. Donc vous pouvez déjà le précommander. C'est un téléphone Android, il est basé sur Android 8 Oreo, mais à l'intérieur, ce qu'il a en plus d'un autre téléphone Android, c'est une puce sécurisée, une Secured Enclave, comme il y en a une déjà dans l'iPhone, mais pour un autre usage. Ici, cette puce sécurisée pourra permettre au téléphone de servir comme une espèce de wallet hardware, mais intégrée pour stocker vos clés et donc tous vos tokens. Et elle sera protégée d'un accès par l'OS, donc Android lui-même n'aura pas accès directement aux données qui figureront dans cette puce. Les livraisons du téléphone démarreront normalement en décembre et il sera dispo dans 34 pays, mais pas la Chine, parce que la Chine, elle a des règles un petit peu particulières par rapport à tout ça, et ça va pas être possible pour eux. Par contre, sur le site, il est dans le communiqué de presse, ils disent que la liste des pays dans lesquels ce sera disponible est sur le site. Je l'ai pas trouvé, donc si quelqu'un la trouve, n'hésitez pas à partager le lien, on la retweetera. J'ai pas trouvé la liste des pays, donc je sais pas sûr qu'il sera dispo en France ou en Belgique. J'imagine que oui, il sera dispo par exemple en Norvège, en Autriche, etc. Donc je vois pas pourquoi la France ou la Belgique serait exclue, mais si ça vous intéresse, renseignez-vous, gardez un œil là-dessus. À titre personnel, je suis pas super content qu'ils aient gardé le nom Exodus. Je pensais que c'était qu'un nom de code et qu'ils allaient lui donner un autre nom au moment de la commercialisation. Le souci avec ça, c'est que Exodus, c'est déjà le nom d'un wallet software, pour le coup, qui existe sur Mac, sur PC, sur Linux et tout ça, et qui est assez répandu. Pour info, c'est celui que moi j'utilise. Donc, je pense qu'il va y avoir une petite guéguerre de nommage entre Exodus, le wallet software, et le HTC Exodus, le téléphone, qui n'a pour le coup rien à voir hein, avec le wallet software. Ici, ce qu'a expliqué HTC par rapport à ce téléphone, c'est qu'il sera plutôt ciblé sur un public, on va dire, de crypto-enthousiastes, hein, un marché de niche qui s'intéresse vraiment à ces problématiques-là, en tout cas dans un premier temps. Et l'objectif pour eux, c'est d'améliorer le produit, donc de récolter du feedback, et aussi d'améliorer un petit peu la sécurité de l'ensemble sur une cible un peu plus attentive à ces problèmes-là, et en même temps qui pourra leur amener du feedback et de l'input. L'objectif, c'est aussi pour eux d'habituer les gens à gérer eux-mêmes leurs clés, hein, au milieu de tous ces sites qui vous permettent de gérer vos clés à votre place, genre Coinbase et compagnie, avec tous les problèmes de sécurité que ça pose, hein. Là encore, n'hésitez pas à vous référer aux épisodes précédents. Donc là, l'idée, c'est de dire, vous êtes responsable de vos clés, elles sont stockées dans votre téléphone, dans cette fameuse Secured Enclave, donc c'est comme un wallet hardware, et c'est vous qui en êtes responsable. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous perdez vos clés, eh ben vous vous retrouvez tout seul, il n'y a pas de reset password ou de I forgot my keys ou machin, vous devez vous débrouiller. Alors, Oui et non, parce que ils ont quand même rajouté un mécanisme que je trouve assez intéressant dans leur système, c'est qu'a priori il y aura une procédure de social key recovery, donc de restauration sociale des clés, qui s'appuiera en fait sur une procédure qui permettra de d'identifier un certain nombre de vos contacts comme contacts de confiance, auquel cas ils pourront installer une application de gestion de clés et ils recevront un morceau de l'information nécessaire pour vous permettre à vous de restaurer votre wallet. Et à ce moment-là, bah, quand vous perdrez vos clés, vous pourrez juste déclencher une procédure qui ira récupérer les petits morceaux d'information avec lesquels chacun de vos contacts de confiance ne pourra rien faire lui tout seul isolément. Puis il connaîtra pas les autres, donc comme ça il pourra pas forcément recouper l'info, mais par contre votre téléphone pourra le faire et donc restaurer votre wallet en combinant les infos, les morceaux de données disponibles chez tous vos contacts de confiance. Donc je trouve ça assez intéressant comme mécanisme et surtout intéressant de l'avoir prévu directement dans le système. Donc voilà, ils prévoient aussi de mettre à disposition des développeurs des API et un SDK. Donc tout ça, c'est des grands sigles qui veulent dire que ils veulent faciliter le développement d'applications et d'interfaces utilisateurs de wallet sur base de leur système. Donc à voir. Si encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site et à précommander votre HTC Exodus One, ce qui au passage indique qu'il y en aura sûrement un tout. Et de faire ça avec vos 0,15 Bitcoin ou vos 4,78 Ether. Voilà, donc ça c'était pour la news concernant le Exodus One. Désolé pour le petit intermède. Donc, deuxième news, on va parler de Civil. Et là, juste faire un petit follow-up sur le dernier épisode où vous avez parlé de l'ICO de Civil qui n'allait pas super bien. Donc, dans l'épisode précédent, vous avez dit que Civil avait lancé une ICO pour tenter de créer un nouveau système d'incentive dans la presse. Il est un fait que la presse et la structure d'information, on va dire, telle qu'on l'a aujourd'hui, elle est vraiment malade à cause de son modèle économique, tout simplement. Qui crée un système d'incentive complètement biaisé et pas du tout orienté vers la vérité et l'information de qualité. Et Civil a pour ambition de régler ce problème-là avec un nouveau système d'incentive basé sur des tokens. Et cette ICO qu'ils avaient lancée donc cet été, elle était en plus grossement sponsorisée par Joseph Lubin, le fondateur de ConsenSys et un acteur marquant de, on va dire, de la communauté Ethereum. Leur projet avec cette ICO, c'était de lever l'équivalent de 8 millions de dollars d'ici la mi-octobre, donc juste après la publication de l'épisode précédent du Proof of Cast. Et comme c'était attendu, eh ben ils n'ont pas réussi. Au final, ils n'ont levé que 1,4 million de dollars. Et ils s'étaient fixé une règle dans cette ICO, c'est que s'ils n'atteignaient pas leur objectif minimum de 8 millions de dollars, eh ben l'ICO était annulée, pour ainsi dire, et puis tous les investisseurs récupéraient leurs billes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont annoncé que d'ici le 29 octobre, tous les investisseurs qui avaient quand même acheté des tokens vont récupérer leur Ether. Voilà. Et donc l'ICO est annulé. Pour autant, le projet n'abandonne pas. Ils ont annoncé qu'ils étaient en train de préparer une nouvelle vente de jetons, donc une nouvelle ICO, plus petite, plus simple. Les détails de cette nouvelle ICO seront publiés bientôt. On n'a pas encore les infos. Mais en gros, ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils prévoient, après cette ICO, de déployer trois nouvelles fonctionnalités, à savoir un plugin WordPress qui facilitera la publication de contenu sur la plateforme Civil, une espèce de ce qu'ils ont appelé un Civil Registry, qui serait une sorte de référentiel des sources d'infos fiables, si j'ai bien compris. Ça me fait un petit peu peur, ce genre de truc, parce que j'ai du mal à voir la décentralisation là-dedans, mais soit, à voir. Et aussi des outils de développement pour créer des applications sur la plateforme Civil, donc encore une fois, API, SDK et tout ce qui s'ensuit. À savoir aussi que les partenariats qu'ils avaient déjà noués avec Associated Press et Forbes ne sont pas affectés, donc ça continue de ce côté-là. Ils ont les mêmes termes sont garantis avec ces partenaires-là. Mais voilà, je voulais juste faire un follow-up par rapport à la news du dernier épisode pour vous expliquer comment ce truc-là avait évolué. Donc comme quoi, hein, toutes les ICO, même à haut profil comme celle-là, c'est-à-dire supportées par des acteurs marquants de la communauté, eh ben n'ont pas un succès garanti, c'est le moins qu'on puisse dire. Parlons aussi d'une autre news qu'on avait évoquée la dernière fois pour faire aussi un follow-up, mais celui-là, il est un petit peu plus important. C'est Constantinople. Donc, je rappelle, hein, Constantinople, c'est ce hard fork de la blockchain Ethereum qui vise à ajouter un certain nombre de fonctionnalités, alors pas forcément très visibles pour le grand public, mais qui vont permettre d'avancer dans la préparation du terrain pour d'autres avancées plus significatives comme le proof of stake et d'autres choses du même genre. Et il y avait aussi des fonctionnalités qui devaient des améliorations qui devaient permettre d'augmenter l'efficacité dans le traitement des smart contracts, etc., etc. Donc la release finale sur le mainnet était prévue avant la DEFCON, donc courant octobre, ce qui nécessitait du coup de commencer les tests bien avant ça. Et notamment en général, ce qu'ils font, c'est que on va dire la pré-production du mainnet Ethereum, c'est un testnet qui s'appelle Robston, qui est relativement proche du mainnet puisqu'il fonctionne aussi avec un consensus par preuve de travail, contrairement à un autre testnet qui s'appelle Rinkeby qui lui fonctionne sur un proof of authority, donc c'est un petit peu plus artificiel, on va dire, comme environnement de test. Là, Robston est vraiment assez proche de la prod, et donc ils avaient prévu de releaser Constantinople sur Robston le 14 octobre. C'est toujours des estimations hein, en termes de date, puisque l'activation elle se cible sur un numéro de bloc. Et ici, c'était le bloc 4 300 000 de la blockchain Robston qui était visé pour le déploiement. Il se fait qu'en fait, elle s'est produite quasiment deux jours plus tôt, puisque ce bloc a été prêt à être miné quasiment deux jours plus tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que sur Robston, on a vu que le bloc 4 299 999 était le dernier pendant un bout de temps. C'est-à-dire que le 4 300 000 a mis énormément de temps à venir. Il a mis deux heures à être miné, au lieu des je sais pas combien de secondes on est sur le réseau Robston. On n'est pas à 15 secondes comme sur le mainnet, mais voilà, en tout cas ça a été beaucoup plus lent que d'habitude. Alors ça à cause de deux problèmes principaux. D'abord, le fait que comme le fork est arrivé, enfin l'activation du hard fork est arrivée plus tôt que prévu, on n'avait pas prévenu suffisamment de mineurs pour être nombreux à miner ce nouveau bloc, et compenser le fait que oula, on change d'algorithme. Et d'autre part, il y a eu un couac dans le bug, dans l'implémentation du hard fork sur deux des plus gros clients. Et à savoir notamment Parity et un autre client qui s'appelle Alet. Sur Get, il n'y avait pas de problème, mais du coup, comme ces deux clients-là avaient un bug, ça a donné lieu à non pas une seule blockchain canonique, on va dire, mais trois branches différentes. Donc on s'est retrouvé avec pendant une période assez conséquente, on s'est retrouvé avec trois branches différentes, donc trois versions différentes de la blockchain Ethereum, en tout cas sur ce réseau de testnet. Et ça, évidemment, c'est pas un cas de figure qu'on aime bien, et c'est certainement un cas de figure à éviter à tout prix en production. Donc heureusement que ça s'est produit sur le testnet, et tout ça a été dû à des bugs, comme je le disais, dans Parity et Alet, qui ont été rapidement identifiés, puisque dès le dimanche 14 octobre, deux jours basiquement après la release de l'activation de ce hard fork, on a trouvé la solution à ce problème, qui au passage était effectivement dans Parity et Alet. Parity, si vous vous souvenez, était les premiers à avoir dit « Nous, c'est bon, on est prêt pour le hard fork, allez-y, dépêchez-vous quand même parce qu'on vous attend. » Donc encore une fois, ils se la sont pété et puis ils ont bien mordu leur chic, puisque c'était ils étaient parmi ceux qui avaient causé un gros problème. Donc tout ça ne sert pas à me rassurer sur les compétences de Parity et surtout sur leur humilité et leur considération vis-à-vis du code, puisqu'encore une fois, c'est eux qui sont responsables d'un gros problème. D'autres, à cause de ce problème-là, d'autres ont spéculé sur le fait que cet échec du hard fork était le résultat d'une fronde des mineurs pas contents d'un passage de la prime de minage de 3 à 2 Ethers. Bon, là, j'ai un peu plus de mal à voir la légitimité de cet argument, parce que c'est le genre de fronde qu'on verrait bien se produire sur le mainnet, hein, puisque c'est là que la monnaie, que l'Ether a vraiment de la valeur, pas sur un testnet où on joue avec de la monnaie de singe et où finalement les mineurs du mainnet ne sont pas pas forcément, hein. C'est plutôt des développeurs, enfin des gens qui sont intéressés par le développement directement, qui vont miner sur le testnet. Donc j'ai du mal à croire à cet argument. Et en l'occurrence, voilà, le problème a été identifié, et comme je disais, réglé dès le dimanche 14 octobre. C'était bien un bug dans Parity et Alet. Un bug qui a d'ailleurs été résolu dans les nouvelles releases des clients dès le 15 octobre, pour info. Donc depuis cette résolution, même s'il existait toujours un fork à trois branches, tous les clients se sont remis à miner sur la chaîne la plus longue, c'est-à-dire celle produite par Get, hein, par GoEthereum, concrètement. Et voilà. Donc ce problème-là, en tout cas, s'est avéré être résolu assez rapidement et a démontré qu'encore une fois, ben voilà, c'est pour ce genre de problème qu'il faut tester sur le testnet avant de passer sur le mainnet. Un avantage, un effet de bord, on va dire, de ce problème-là, c'est qu'il a poussé beaucoup de perdieux à s'intéresser au code, à repasser dessus, donc à faire un peu de code review. Et donc, ça augmente de fait la solidité de la prochaine release, on espère. Alors pour la petite blague, hein, la transaction qui a fait forker Robston, j'ai pas pu vérifier puisque on peut plus la voir sur les blogs Explorer, mais apparemment elle contenait un tweet de Donald Trump, ce qui a aussi fait sourire certains théoriser sur la conspiration pour d'autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est que suite à ça, il y a d'autres petits bugs qui ont été découverts depuis dans les différentes implémentations et qui ont mené finalement à ce que au 19 octobre, lors d'un de leurs meetings qui sont streamés sur YouTube, hein, que je vous invite toujours à aller voir si ça vous intéresse, les développeurs ont finalement décidé de repousser la release de Constantinople à plus tard. Alors en l'occurrence bien après la date prévue puisqu'il y a la DEFCON au milieu et puis qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses à changer, ça a été repoussé au mieux à janvier 2019, donc on parle du début de l'année prochaine. Donc Constantinople n'aura pas lieu en novembre ou en octobre comme c'était initialement prévu, ce qui devrait au passage avoir plusieurs impacts. Le premier, c'est que on a pu se rendre compte avec cette release sur un peu mouvementée sur Robston qu'il y avait un certain nombre de problèmes en termes de communication, notamment, et de communication entre les développeurs eux-mêmes, d'une part, et puis aussi entre les développeurs et les mineurs, d'autre part, puisque ici, les développeurs avaient prévu de réaliser sur le bloc 4 300 000, et puis ils ne sont pas coordonnés avec les mineurs, et des résultats du course, il n'y a pas suffisamment de mineurs, donc le bloc a mis longtemps à être miné, ça a fait paniquer tout le monde, bref. Il y a un problème de communication à régler, donc il y a des canaux de communication à optimiser à ce niveau-là. Après, c'est aussi un effet de bord de la décentralisation, c'est que la communication, c'est très simple dans une organisation centralisée, hein, c'est un peu pour ça qu'elles sont faites. Par contre, dans une organisation décentralisée comme ça, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, donc il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Autre élément qu'il faudra probablement remettre d'équerre avant la prochaine release, c'est un outil de monitoring des forks pour aider les clients dans leur identification de la bonne chaîne sur laquelle miner. Je vous avoue que j'ai pas suivi exactement les détails de cet argument-là, mais voilà, c'est un des éléments qu'ils ont soulevé comme étant nécessaire avant la prochaine release. Donc avec tout ça, effectivement, il y aura des tests plus longs qui devront être prévus. Hein. Certains parlent de au moins un mois de tests couronnés de succès sur Robston avant de passer sur le mainnet. Donc tout ça nous fait dire qu'effectivement, même si on n'a pas d'informations officielles, hein, peut-être qu'on en aura plus cette semaine à la DEFCON, mais pour l'instant on parle de janvier voire de février pour une release. Ce qui a un autre impact au passage, c'est que si vous vous souvenez bien, on avait parlé du fait que les mineurs poussaient une autre amélioration qui s'appelle ProcPow, enfin c'est son nom de code, c'est-à-dire une modification de l'algorithme de consensus pour devenir ASIC resistant, pour mettre les ASICs à l'écart, que les développeurs avaient refusé d'intégrer, à mon avis à raison, dans cette release de Constantinople parce qu'il était un petit peu trop tard pour le faire. La preuve, ça n'a pas bien, enfin voilà, ça aurait peut-être rajouté de l'huile sur le feu. Mais du coup, si on repousse la release de Constantinople à janvier, février, voire peut-être mars 2019, on ne sait pas, ça laissera peut-être le temps de faire le processus nécessaire en termes de code review et de test sur ProcPow pour pouvoir éventuellement l'intégrer un petit peu au chausse-pied dans dans Constantinople. Donc à voir, à suivre de ce côté-là aussi. En tout cas, encore un hard fork un petit peu douloureux pour Ethereum, qui a poussé certains à suggérer que le prochain hard fork, qui est déjà nommé Istanbul, soit testé beaucoup plus lentement et beaucoup plus incrémentalement, notamment en essayant de faire des tests, une amélioration à la fois. Donc plutôt que de faire un batch, là on a les 5 améliorations que tu es balancé en même temps, et puis on voit bien si ça fonctionne ou pas. Là certains proposent que pour la prochaine release Istanbul, on essaye de faire un EIP, donc une amélioration à la fois, et de regarder si ça marche à chaque fois. Donc ce qui prendrait éventuellement évidemment beaucoup plus de temps pour activer le hard fork, mais voilà, certains développeurs se sont portés, ont confirmé que ce serait intéressant en tout cas d'étudier la question. Bref, tout ça illustre bien que la décentralisation, définitivement, ça apporte beaucoup de bénéfices, mais ça a un certain coût, et notamment un coût en termes de coordination, et en même temps, ça apporte d'une certaine façon de l'eau au moulin, d'autres propositions de ce qu'on appelle de gouvernance on-chain, comme celle qu'apporte Tezos, donc affaire à suivre. Voilà qui clôture le chapitre sur Constantinople, et on va passer toujours dans le monde Ethereum à une annonce officielle de la Fondation Ethereum qui a pour le coup annoncé une plutôt bonne nouvelle, on va dire, pour l'écosystème dans son ensemble, puisque elle a arrosé un petit peu différents projets dans une annonce faite le 15 octobre des bénéficiaires de sa 4e vague de bourses de recherche. Donc la Fondation Ethereum, elle a des moyens relativement importants, notamment grâce à l'ICO qu'ils ont faite en 2015 et qui leur a permis d'avoir un certain nombre de brousouf qu'ils ont fait fructifier avec l'augmentation évidemment de la valeur de l'Ether depuis. Et aujourd'hui, ils continuent régulièrement à financer des projets qui soumettent un appel, enfin qui répondent à un appel à candidature, qui soumettent leur projet pour une demande de bourse. Et on en est déjà à la 4e vague de ces bourses de recherche qui a permis d'attribuer un peu plus de 2,6 millions de dollars, si j'ai bien fait mes calculs, à différents projets, avec un gros focus d'une part sur la scalabilité, sur tous les projets qui essayent d'améliorer la scalabilité du réseau Ethereum, et d'autre part sur les clients, ce qu'on appelle Ethereum 2.0, c'est-à-dire déjà la recherche qui est en cours sur la future version d'Ethereum, avec notamment une nouvelle machine virtuelle, et puis potentiellement d'ici là un nouvel algorithme de consensus, etc., etc. Donc voilà, il y a des groupes comme Prototypal qui fait de la recherche et développement sur le front-end des state channels, qui a eu une grosse bourse de 375 000 dollars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de marquant? Trueblox, qui développe un explorer de blocs mais open source. Donc ça c'est aussi intéressant, ils ont eu 120 000 dollars. On a Gitcoin qui fait un système pour faire des bounties, donc des primes pour la résolution de bugs en utilisant Git et grâce aux crypto-monnaies. Donc ils ont eu 100 000 dollars. Et alors parmi les plus gros, les plus grosses bourses, on a Prismatic Labs qui développe un client Ethereum 2.0 en Prism, et on a Status, un autre client Ethereum 2.0 qui lui est développé en NIM, et je crois qu'ils ont développé un truc qui s'appelle Nimbus. J'ai pas suivi exactement en détail ce que c'était, mais voilà, Status c'est aussi un énorme projet dans la communauté qui développe notamment un client mobile, mais pas que. Ils ont annoncé déjà l'année dernière à DEFCON qu'ils allaient aussi développer des clients web, des clients lourds, etc. Donc intéressant, un projet très intéressant à suivre, avec maintenant de nouveaux moyens pour réaliser leurs objectifs. Donc comme je disais, tout un peu plus de 2,6 millions de dollars. Et en même temps que l'annonce de cette 4e vague, ils ont évidemment confirmé que la 5e vague était déjà ouverte. Donc je vous ai mis le lien pour soumettre vos candidatures si ça vous intéresse dans le blog post de l'épisode. Et d'ailleurs, l'annonce officielle de la Fondation Ethereum inclut aussi des idées de thèmes sur lesquels les projets sont très attendus. Alors il y a des thèmes qui étaient déjà dans les les précédentes vagues, et puis il y a des thèmes qui sont nouveaux. Donc tout ce qui est scalabilité, comme les state channels, Plasma, les Lightning Networks, le WebAssembly, c'est cette nouvelle forme de machine virtuelle, Casper, donc ça c'est le Proof of Stake, tout ça, ça reste. Je pense que c'était déjà parmi les objectifs des précédentes vagues et ça reste le cas. La vie privée, il y a énormément de recherches en cours sur les Starks et les Snarks, c'est-à-dire ces preuves sans connaissance dont on a déjà parlé, notamment dans le contexte de Zcash, mais aussi dans leur implémentation sur Ethereum. Donc il y a énormément de fonds qui sont disponibles pour faire avancer la recherche dans ces domaines-là. L'utilisabilité, c'est-à-dire si vous développez un wallet, vous améliorez la gestion des clés, les outils pour les développeurs, là il y a aussi beaucoup de moyens pour ça, mais aussi les ressources d'éducation ou le travail sur le langage Viper, qui serait a priori le successeur de Solidity. Tout ça fait partie aussi des domaines sur lesquels des fonds seront alloués. Et puis la sécurité, avec des financements pour des audits de différents standards, comme vous connaissez déjà les ERC-20, ERC-721 et tout ça. Évidemment, il y a toujours des ERC qui sont en cours d'élaboration et qui nécessitent des audits de sécurité. Donc ça, il y a des financements pour ça. Et alors, quelque chose qui est un petit peu nouveau et que j'accueille avec enthousiasme, c'est des financements pour le développement d'un environnement de développement intégré, donc un IDE, avec un débuggeur visuel. Oui, s'il vous plaît, parce que pour l'instant, on n'a que des outils en ligne de commande. Et franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus user-friendly, même pour des développeurs aguerris. Donc, ce serait bien qu'effectivement, certains groupes se mettent à faire avancer l'état de l'art dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi des financements pour tout ce qui est éducation. Donc, voilà, le message est toujours le même. Si toutes ces problématiques vous intéressent, plutôt que d'aller bosser, si vous faites un petit peu des maths, de la crypto, que vous intéressez à la théorie des jeux, etc., etc. Et puis, d'une façon générale, si vous êtes développeur, eh ben, impliquez-vous dans ces projets, parce qu'il y a des financements, il y a moyen aussi de faire de l'argent, tout simplement de d'être financé pour développer ce genre de choses, et pour participer à des initiatives qui, comme vous l'aurez compris, je l'espère en écoutant ce podcast, auront un impact non négligeable sur la société dans son ensemble. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité que je voulais couvrir dans cet épisode. Je voulais pas m'étaler non plus parce que, voilà, pour essayer de raccourcir un petit peu l'épisode. Je ne sais même pas à combien on en est à l'heure de maintenant. Oui, je pense qu'on n'est pas loin de l'heure d'épisode, là. Donc, voilà. Je vous invite de nouveau à partager vos commentaires et vos questions. S'il y a des choses que j'ai expliqué pas assez clairement ou quoi, n'hésitez pas à poser vos questions sur le blog post de l'émission et sur Twitter, Facebook et toutes cette sorte de choses. Je vous rappelle au passage que si vous êtes développeur et que vous avez envie de vous familiariser avec l'environnement de développement des smart contracts sur Ethereum, on a toujours notre cours en ligne sur Udemy pour lequel vous disposez d'un code Proof of Cast qui vous permet d'avoir le cours pour la modique somme de 9,99€ ou 10€, quoi, en gros, hein, on va pas se mentir. Le prochain épisode du Proof of Cast sera diffusé le 10 novembre, donc normalement enregistré depuis l'Afrique du Sud où je serai à ce moment-là. Oui, parce que voilà, vous l'aurez peut-être compris d'après mes remarques dans les précédents épisodes. En parallèle de toutes mes recherches sur et de tout mon travail autour des blockchains et de ce podcast et de toutes les autres initiatives que j'ai décidé de changer de mode de vie, tout simplement. Donc certains s'éloignent des réseaux sociaux, hein, j'ai nommé notre ami Plume, d'autres s'éloignent des possessions matérielles. Donc moi j'ai revendu beaucoup de choses, j'ai revendu tout le contenu de mon appartement en gros. J'ai déménagé dans un tout petit appartement en Belgique pour le principe, mais surtout je vais voyager. Je vais essayer de travailler en voyageant. Alors malheureusement ça n'est pas que mon travail sur la blockchain et sur Ethereum et tout ça qui me permettent de financer ce nouveau mode de vie. Hein. Je fais aussi du développement mobile, du développement web, enfin du développement full stack sur le côté. Donc d'ailleurs, si vous avez des projets dans ce domaine-là, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà. Et donc, j'ai décidé de travailler en voyageant. J'ai déménagé de mon appartement. Je suis cette semaine à Prague en République tchèque et je serai à partir de la fin de la semaine prochaine, donc début novembre, je serai en Afrique du Sud, au Cap. Et ensuite, on verra bien. Mais donc, ce podcast va voyager avec moi. Je continue à enregistrer des épisodes à distance avec avec mon ami Plume, mais je l'espère avec d'autres contributeurs, d'autres chroniqueurs dans les mois qui viennent. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'aventure du Proof of Cast. Donc voilà, le prochain épisode, comme je le disais, sera diffusé le 10 novembre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos remarques et vos appréciations sur iTunes. C'est vraiment important pour diffuser un petit peu les choses, pour que quand les gens cherchent, tapent blockchain ou décentralisation dans leur petit moteur de recherche iTunes, et ben ils tombent sur des podcasts avec des bonnes notes, avec des commentaires, et ben ça les encourage à s'y inscrire, à s'y abonner. Donc n'hésitez pas à nous aider via ce biais-là, ça nous fait toujours plaisir. Et puis voilà, comme je le disais, les réseaux sociaux, vous connaissez la musique. Merci d'avoir écouté cet épisode 13 du Proof of Cast. À bientôt et amusez-vous bien sur la blockchain. Au revoir.